Allô? Allô? Mais ils ne répondent pas?
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Paroles Auditeurs, votre magazine d'échanges citoyens. La Task Force sanitaire de la RDC sollicite un budget de 135 millions de dollars pour la riposte contre le Covid-19. Entre-temps, dans une feuille de route publiée le lundi dernier, pour un bon financement de la riposte, l'Observatoire des dépenses publiques estime que les prévisions actuelles ne sont ni réalistes ni crédibles au vu de l'ampleur de ce programme et des besoins. Comment réagissez-vous? Vos avis et commentaires, faites-les nous parvenir à l'adresse pa@radiocapi.net et participe également à ces débats sur notre page Facebook. Près de 12 300 personnes ont consulté notre page Facebook et 1600 ont interagi et 150 ont commenté ce sujet et 58 l'ont partagé. Merci à tous de l'intérêt que vous accordez à nos différents sujets proposés pour les débats dans ces programmes sur Radio Okapi. À toutes et à tous, bienvenue dans cet échange citoyen.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Professeur Florimond Mouteba, nous vous accueillons dans ces studios. Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous avoir honoré de votre présence dans ces studios. Mais d'entrée des jeux, en réfléchissant sur les coûts annoncés de la riposte, l'ODEP, l'Observatoire des dépenses publiques que vous coordonnez, évoque le réalisme politique et financier à la fois pour obtenir les solutions crédibles. Alors que redoute l'Observatoire des dépenses en annonçant cette feuille de route?
Ok. D'abord, je voudrais joindre ma voix à celle des autres pour demander à la population de respecter les consignes qui leur sont données pour se protéger, protéger les autres. C'est très important. La maladie, elle est là. Elle est sérieuse. Elle est vraiment sérieuse. Donc, il ne faut pas jouer avec toutes les consignes de confinement, le respect de la
distance,
les pratiques
d'hygiène.
C'est très, très, très important. Alors, c'est en prenant la mesure de, et l'ampleur de la crise sanitaire que nous disons, la crise est globale, elle est multidimensionnelle. Et les prévisions de 135 millions, c'est juste des prévisions pour la riposte sanitaire. Et en plus, sanitaire à Kinshasa. Alors que la crise, elle est nationale. Il faut intégrer les provinces, mais aussi il faut voir tous les secteurs qui sont concernés par cette crise. Allez, d'abord, il faut associer là, je vais d'abord parler de l'ampleur, la crise. Ensuite, je parlerai du financement. Et ensuite, je parlerai de le cadre légal du programme. Alors nous parlons de programme multisectoriel, d'urgence pour la riposte, que nous avons en abrégé appelé PEMUR. Alors, ce programme doit comprendre non seulement la riposte sanitaire, mais il doit intégrer toutes les autres dimensions. Prenons, par exemple, là où les équipes doivent aller. S'il n'y a pas de bonne route, si la jonction par le fleuve ou par la mer ou par l'aéroport ne peut pas se faire, mais comment vous allez atteindre les gens? Mais si dans votre riposte, vous n'avez pas prévu les moyens, notamment pour se déplacer, pour se déployer, comment vous allez faire? Bon, même dans, pour planifier le programme lui-même de riposte, si vous n'associez pas le ministère du plan, qui seul détient les méthodes des planifications et donc les procédures qu'il faut respecter, légales et autres, comment vous allez faire le travail? Si les ministères de finances ne s'impliquent pas, pour pouvoir être encore plus sévère avec les régies financières, pour qu'ils puissent mobiliser davantage de moyens, pour qu'on puisse enrayer le coulage des recettes. Parce que ici, vous savez, avec toutes les mesures qui ont été prises, des entreprises qui vont travailler à mi-temps.
Elles seront exonérées.
Et d'autres qui seront exonérées. Ça fait beaucoup, beaucoup de moyens parce que ces exonérations, c'est très bien. Mais les entreprises elles-mêmes qui ne vont pas travailler, qui vont connaître des baisses de production, qui vont connaître des baisses de chiffre d'affaires, et ces entreprises-là doivent être indemnisées. Doivent être indemnisés. Vous voyez, par exemple, lorsque le gouvernement dit on ne va pas l'eau, l'électricité, ça va être gratuit. Mais attention, pour la SNEL et l'Argie des eaux, ce sont des manques à gagner du point de vue de leurs recettes. Ça ne doit pas se passer comme ça. Il faudrait les indemniser. Vous voyez. Prenons par exemple dans le cas du commerce, le commerce intérieur. Combien de petites et moyennes entreprises de commerce, les mamans commerçantes, les Wewa, les Kwado, tous ces gens qui, les commerçants ambulants, les magasins sur l'avenue du commerce et ailleurs à Kinshasa, ces gens vont fermer.
Mais cette question, ça nous rattrape aujourd'hui parce qu'on a toujours parlé des secteurs informels qu'il fallait formaliser.
Exactement.
Ça nous rattrape.
Mais ces gens, en fermant, ils vont perdre beaucoup de moyens. Ils vont perdre. Tous ces taxis, les esprits de vie, ou même des morts, tous ces gens transport.
Mais le fait que ça soit dans l'informel, ce n'est pas la charge de l'État.
Bon, c'est vrai, mais on doit pouvoir trouver un mécanisme pour pouvoir quand même les indemniser. Ils vont perdre des revenus. Et en plus, bon, on les confine. On les confine, mais ils vont être dans le confinement avec quels moyens pour pouvoir vivre tous les jours et manger. Là aussi, c'est un autre aspect, une autre dimension de la crise. Tous ces gens qui vont être confinés, comment, si le gouvernement ne fait pas un effort pour importer et acheter à l'intérieur et ailleurs des grandes quantités de nourriture à distribuer gratuitement à la population, comme ça se fait au Rwanda, comme ça se fait au Kenya. Et je ne parle pas des pays européens où c'est automatique. Alors, si on ne le fait pas, comment est-ce que les gens vont...
Est-ce que vous pensez vraiment que c'est l'idéal aujourd'hui, une approche méthodologique d'attaque que vous proposez, qui s'impose, c'est la conception et la mise en place d'un programme multisectoriel de PMI. Vous pensez que c'est vraiment important?
Mais c'est très important. Parce que, allez, dis-moi un peu, les entreprises privées qui vont perdre donc leurs moyens, ils vont perdre leur chiffre d'affaires, leur production va baisser. Et après la crise, comment on va faire? Parce qu'après la crise, il faut que le pays redémarre. Mais le pays va redémarrer avec quelles entreprises qui auront été presque au bord de la faillite.
Oui, parce qu'au niveau du plan, nous avons un problème déjà des investissements.
Oui. Ouais.
Au niveau des finances, et qu'on se le dise déjà, avec le plan de trésorerie qui a été présenté dernièrement à la baisse, nous risquons de connaître des sérieux problèmes.
Non, mais c'est vrai. C'est vrai que le taux de croissance va baisser. Il faut compter sur un taux de croissance peut-être de 1 ou de 1,5%. C'est vrai que le PIB va aussi baisser. Mais de l'autre côté, il est nécessaire qu'il y ait plus de sévérité vis-à-vis des régies financières. Plus de sévérité parce que vous savez même que au niveau des régies financières, souvent il y a beaucoup de coulages, etc. Qu'on fasse tout pour que le peu de moyens qui peuvent être disponibles les soient. Parce que quand nous faisons des budgets, même de 11 milliards, etc., etc., c'est un leurre dans la mesure où nous n'avons pris aucune mesure pour contraindre, enrayer la corruption, enrayer le coulage de recettes. Mais si on faisait cela, on pouvait avoir des budgets beaucoup plus importants. C'est ainsi que, dans la crise actuelle, qu'on ne joue pas avec ça. C'est-à-dire que la corruption ne doit pas venir prendre encore un peu de moyens qui
vont
nous
rester. Vous estimez que les 135 millions, c'est peu, c'est insignifiant.
C'est trop peu.
Mais il faut qu'on aille jusqu'à combien, pratiquement?
Allez,
est-ce que ça ne va pas occasionner encore la corruption? Les détournements?
Effectivement. C'est-à-dire que les 135 millions, c'est la riponse sanitaire. Si on doit tenir compte de toute la dimension, indemniser les entreprises et acheter des équipements.
Soutenir les ménages, les commerçants informels.
Même les hôpitaux en province, ici. Il faut les équiper de manière appropriée à la maladie. Donc il y a beaucoup d'investissements à faire. Pas seulement Kinshasa. Il y a beaucoup d'investissements, ne fût-ce que sur les plans sanitaires, mais sur les autres plans également. Il y aura des investissements à faire. Et ces investissements-là, c'est encore une fois des marchés qu'on doit passer. Et si ces marchés, on les passe encore de manière qu'on a vu dans le programme des 100 jours, vraiment ça va être très très dommage. Donc il faut faire en sorte que ces programmes ici puissent se faire de manière correcte, qu'on évite ce qui s'est passé. Par exemple, il faut donner un cadre légal au PMUR. Au programme de riposte. on sera peut-être aux alentours de 500 millions cette année, mais sur 2-3 ans, parce qu'il y aura des conséquences qu'il faut continuer à soigner. Mm-hmm. Mais sur 3 ans,
nous pouvons... La situation post-crise, donc là, c'est...
Nous avons planifié 1,7 milliard, au moins.
1,7 milliard
pour les 3 ans. Mais cette année ici, 135 000, non. Il faut compter qu'au moins 500 millions vont être nécessaires pour pouvoir faire face globalement à la crise. Mais il faut qu'il y ait... comment nous allons trouver entre autres ces moyens? D'abord, il faut que nous avons prévu que tous les animateurs des institutions publiques, à partir des provinces, les gouverneurs, les vice-gouverneurs, les députés provinciaux, les députés nationaux, les sénateurs, les ministres, toutes ces personnes politiques, ils doivent renoncer à 25% de leurs émoluments. Mmh. Et ces 25% vont être versés dans la caisse de solidarité. Mmh. Il y a aussi, par exemple, toutes les promesses qu'on avait faites d'augmentation des salaires, etc., pour les fonctionnaires. Nous disons, il faut un gel d'au moins 3 mois. Et ce gel va permettre de dégager, parce qu'il y a plus d'1,5 million de gens.
Faut-il stopper des projets, par exemple, des 100 jours?
Il faut stopper JR, tous les investissements, comme le...
À long terme ou encore...
Non, le programme de 100 jours doit être stoppé, surtout celui-là. Parce que d'abord, c'est un programme à problème. Dans lesquels il y a eu beaucoup des erreurs de gestion, pour lesquelles d'ailleurs vous êtes en train de voir, les tribunaux sont en train de faire quand même un excellent travail, mais toujours tout en n'inquiétant pas ceux qui avaient géré le programme.
Alors là, vous avez parlé de la solidarité nationale, oui, avec la contribution des autorités, oui, et aussi la contribution, si possible, de la population.
Exactement.
Ceux qui estiment qu'ils peuvent, soutenir cette action.
Exactement.
Mais la solidarité internationale également. Parce
également.
Que déjà, l'ONU, les Nations Unies, oui, l'OMS, et les gens sont dans la danse pour ne fût-ce que donner.
Exactement.
Les ambassades des États-Unis, c'est déjà souscrit.
Oui, bon, quand j'entends 6 millions, c'est bien, tel pays a donné 6 millions, mais c'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau par rapport aux besoins que nous avons. Je prends seulement les besoins alimentaires, hein, les besoins alimentaires de la ville de Kinshasa.
Les points de distribution, des aliments.
Et ces vivres-là. Bon, vous n'allez pas dire à la population, nous allons créer des cantines. Ces cantines, bon, ils vont venir acheter avec quoi? Il faut distribuer gratuitement la nourriture.
Comme les femmes, les Madagascar,
les
pauvres, mais bon,
Il faut distribuer. Les Rwanda distribuent la nourriture gratuitement. C'est toujours bien de dire du mal du Rwanda, mais quand il y a un bon point positif, disons-le. Mais le Rwanda distribue la nourriture. Et ici, là, j'ai pas encore entendu dire qu'on va distribuer la nourriture gratuitement à la population. Pourtant, il faut le faire.
Voilà. Ouais. On va revenir à vous, professeur Florimond Mouteba, coordonnateur de l'ODEM.
On parlera du cadre légal.
Voilà. Le cadre légal qui reste, parce que vous avez dit qu'il faut stopper les 100 jours, que les autorités puissent, renoncer à leur 25%, auprès de 25% de leur émolument, pour soutenir, pour l'effort de la solidarité nationale.
Ouais.
On va écouter les auditeurs qui nous ont rejoints à ces débats. Jérémy Mwamba, Alain Bolojoa et Paul qui est à Calémie. 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Pour Florimond Mouteba, 135 millions de dollars, c'est insignifiant. Ça ne pourrait pas, en tout cas, répondre à la riposte multidimensionnelle. Jérémy, vous êtes à moi, vous êtes à Lubumbashi, bonjour. Voilà, Alain Bolojoa, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Radio Capi, bonjour à votre invité, bonjour à tout le monde.
Quelle est votre réaction, Alain?
Oui, je viens de suivre avec beaucoup d'attention votre invité. Et je crois que nous avons en commun plusieurs points, et surtout en ce qui concerne la gestion de la crise, dans son aspect financier. Moi, personnellement, je considère que effectivement, on a minoré le budget par le simple fait qu'on s'était plus focalisé sur Kinshasa. On n'a pas pu prendre de bonnes mesures pour que les autres provinces ne soient pas infectées. Fort malheureusement, aujourd'hui, il y en a déjà 3. Et parmi les 3, ce sont des provinces, parmi les provinces les plus peuplées. Vous prenez le nord et le sud Kivu et l'Ituri. Ce qui sous-entend que l'ampleur qui prend la pandémie va au-delà de ce qui a été prévu. Sur les 135 millions de dollars qui ont été prévus pour la riposte, jusque-là, le gouvernement n'avait débloqué que 1,8 million. Ce qui sous-entend qu'effectivement, il y a un sérieux problème. en termes de priorisation. Parce que je ne vois pas l'importance de tous les autres projets dès lors que la population risque de perdre la vie ou sinon on risque de connaître l'hécatombe. Mm-hmm. Donc ce qui veut dire la priorité des priorités aujourd'hui,
c'est la
protection ou la préservation de la vie, la préservation, la protection des Congolais. Ce qui sous-entend que nous pouvons, de manière exceptionnelle, suspendre tous les autres projets et considérer cette situation comme l'urgence, une urgence. Et en tant que tel, on peut prendre, je prends l'exemple, il y a un projet qui a été initié dans le cadre du programme des 100 jours, s'agissant de la construction d'une centrale électrique à base de gaz à Moanda avec Perenco. Il a été précisé qu'il y a 180 millions de dollars disponibles. Ce qui sous-entend que c'était justement pour desservir la population. Et aujourd'hui, qu'il y a une situation catastrophique qui peut faire effacer de la carte la République démocratique du Congo, bien que le courant soit une nécessité, mais ce qui est vrai, on ne pourra pas exécuter ou mettre en œuvre ces programmes dès lors que le pays est secoué par l'épidémie. Donc on peut prendre cet argent
et l'affecter.
Non, l'affecter directement pour résoudre le problème.
Est-ce qu'il ne s'agira pas là d'un détournement?
Non, mais si le détournement sert à protéger la nation.
Parce qu'on a détourné l'argent de la mission qui lui était assignée avant.
Non, mais effectivement.
Parce que nous avons vu les gens monter au créneau lorsque Batata Ponyo avait construit l'immeuble intelligent, l'argent pris dans les comptes de 250 000 qu'on récoltait pour les élections.
Non, mais effectivement, en fait, le problème, c'est que c'est par rapport à la priorité, l'urgence aujourd'hui. Pour nous, l'urgence, c'est de préserver des vies. Mmh. On doit faire la part des choses. Si aujourd'hui, on laisse cette somme de 180 millions de dollars au niveau de compte de Perenco, et que tout le Congolais mourrait aujourd'hui, ça ne servira à rien. Ce qui est important, c'est de mettre l'urgence, c'est-à-dire de mettre tout le moyen pour que nous puissions d'abord maîtriser cette situation de pandémie. Et après, on va voir. Et en ce qui concerne le budget, effectivement, le budget est minime, tout simplement parce que jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons qu'une RB installée à Kinshasa. Étant donné que la maladie, l'épidémie, la pandémie prend de l'ampleur, en principe, on doit avoir ne plus que trois types de laboratoires répartis dans la partie ouest, dans la partie nord-est et dans la partie sud-ouest. Si on peut avoir trois équipements pour faire les analyses, pour faire les diagnostics, ça sera déjà une bonne chose. Ce qui est surprenant, jusqu'à preuve du contraire, les zones de santé de Kinshasa, d'abord, ne sont pas associées dans la riposte. Et l'aspect socio-économique n'est pas pris en compte, parce qu'on a nommé un coordonnateur en charge de la riposte dans l'aspect sanitaire, et nous connaissons, c'est le docteur Mouyembe, qui est salué en passant, mais l'aspect socio-économique, jusque-là, il n'y a pas de coordination. Et par rapport à la mise en place de la structure au niveau de la présidence, moi je crois qu'on devait plutôt mettre en place une commission interministérielle qui doit intégrer en son sein des spécialistes dans des domaines variés pour que nous ayons une vision large de la situation. Parce que ce qui est vrai, il faut que nous mangions, il faut que nous ayons de l'eau, il faut qu'il y ait la
donc sécurité. Bref, vous voulez qu'on puisse revoir à la hausse ces budgets?
Non, mais effectivement, on doit d'abord revoir l'organisation et puis revoir aussi à la hausse.
À la hausse du budget. Merci beaucoup, Alain Bolodjoie. Mais pour votre information, les MCZ, les médecins chefs des zones à travers la ville de Kinshasa, notamment celui de la commune de Kitambo, Gombe, Kassavu, Bungiringiri, Kinshasa, Limité, Bandal et autres, Mongafula, ils ont été en réunion les dimanches à Inerbe et des instructions fermes qui leur ont été données. Donc, ils sont déjà dans la danse par rapport au côté sanitaire. Donc, c'est pour dire, de ce côté-là, prenez votre mal en patience. Paul, vous êtes à Kalemi. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Paul, vous êtes avec nous? Félicien Kindoula, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Félicien.
Bonjour, Pierre. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs.
Est-ce que pensez-vous, comme notre invité et aussi Alain Bolodjoie, qui demande à ce que tous les autres projets puissent se stopper afin de pouvoir affecter cet argent pour la lutte contre le Covid-19?
Oui, effectivement, Bologia a raison, je le salue en passant. Moi, je pense que nous sommes dans une situation où on n'a pas à commencer à réfléchir parce qu'il va de la vie de toute une nation. Ici, moi, je pense même que même le Parlement, même l'autorité budgétaire peut intervenir sur le budget pour faire des coupes budgétaires et chercher des moyens. Parce que moi, je ne pense pas que notre pays ait la politique de prévoir dans le budget les catastrophes naturelles qui peuvent arriver, qui sont quelque chose d'aussi important comme partout ailleurs.
Oui, mais maintenant, nous sommes dans un état d'urgence. Le Parlement ne va pas siéger.
Et on peut trouver un mécanisme, parce que quand c'est avec l'accord de tout le monde, je pense qu'il n'y a personne qui va parler quand il y a eu des tournements. Parce que s'il y a des tournements, il y a des institutions qui peuvent constater des tournements. Et avec la situation que nous traversons, donc je pense qu'on peut trouver une formule pour qu'on puisse surseoir certains projets qui ont été prévus pour que on puisse récupérer cet argent-là et faire face à la catastrophe naturelle qui nous est arrivée. Parce que on aurait bien fait plutôt de ne pas permettre que la maladie entre au pays. Ça nous coûterait moins cher. Mais comme on a commis l'erreur que c'est déjà entré, nous devons faire un effort pour avoir les moyens. Parce que nous sommes une étendue, nous sommes une population. Et si vraiment, vous voyez d'ailleurs comment ça évolue, si on ne fait pas attention, ça ne serait pas. Donc c'est presque tout le budget du Congo qui peut s'enfoncer là-dedans. Alors, il ne faut pas commencer à réfléchir de cette façon-là. Aujourd'hui, ce sont d'autres pays qui ont l'habitude de nous aider. Or, le monde entier est dans la même situation. Même si nous n'avons pas les mêmes économies, nous n'avons pas...
Oui, ils sont dans la même situation, mais ils n'hésitent pas de poser des actes de solidarité, de générosité, comme les États-Unis promettent déjà les 4 millions, donc malgré qu'ils sont dans cette situation, mais ils pensent en Afrique, et l'OMS l'a dit, l'Afrique doit se réveiller. Merci beaucoup, Félicien. Pichou, vous êtes à Kwilungongo. Bonjour, Pichou.
Bonjour, JR. Bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment.
Quelle est votre contribution, Pichou?
Bon, en tout cas, ma contribution est, je crois que tous ceux qui sont passés avant moi ont essayé de parcourir tout petit peu ce que moi j'ai comme idée. Moi, je crois que je pourrais ajouter que les gouvernements, la présidence de la République doit se focaliser. Pour l'instant, il a prononcé, il a dit, nous sommes dans un état d'urgence. Un état d'urgence, en ce moment, doit plus se focaliser, trouvant des stratégies, comment arrêter, comment rééduquer. Parce que c'est possible aujourd'hui que nous puissions modifier toutes les données par rapport aux réalités qui existent maintenant. Je prends l'exemple. Ici, nous sommes au Congo central. Personne ne peut ignorer que nous avons isolé, c'est-à-dire que Kinshasa, la ville de Kinshasa est isolée du Congo central. Mais allez-y voir les réalités qui se passent au niveau de cette barrière qu'on a imposée au niveau de Kasangulu ou Mitendi. Moi, je crois que le sérieux n'existe pas encore. Et les gens continuent à minimiser cette maladie de telle en sorte que je crains fort, comme les autres l'ont dit, qu'il y ait l'hécatombe, l'inexistante mort ici au niveau de notre pays. Je crains fort parce que le manque d'information, il y a aussi un autre souci. Il y a le manque d'information qui fait qu'aujourd'hui, si vous venez à Kwilungongo, les gens continuent à circuler comme
voilà. Normalement. Alors Pichu, donc si je comprends bien pour vous, vous êtes d'accord qu'on puisse revoir ces budgets?
Mais en tout cas, pour moi, c'est une condition sine qua non qu'on revoit à la hausse. Et qu'on donne les moyens à cette équipe qui est mobilisée pour essayer de maîtriser cette pandémie. Parce que au risque même que ces moyens, comme nous le savons au Congo, que cela puisse être destiné à être pour servir cette équipe, mais ça va aller dans le poche des gens.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pichou. Alors on revient à vous, Florimond. Quelle est votre réaction? Parce qu'il y a tout à l'heure un auditeur qui proposait la coupe budgétaire. Et il y a également la question du cadre légal aujourd'hui, de PEMUR que vous proposez, les plans multisectoriels de la riposte.
Ouais. D'abord, la coupe budgétaire. Les coupes budgétaires, je voudrais dire à la population congolaise qu'au Kenya, le président Uhuru Kenyatta a renoncé à 80% de ses émoluments. Nous aimerions que le président Félix Tshisekedi fasse la même chose et donne l'exemple. Et quand il aura donné ainsi l'exemple, tous les autres, le Premier ministre et tous, comme nous avons dit tout à l'heure, que tous les personnels politiques montrent que vraiment, en fait, le peuple d'abord est réel et qu'ils peuvent renoncer à leurs avantages comme ils les aiment d'habitude pour contribuer à réunir ces moyens dont nous avons besoin. Oui, les coupes budgétaires. Nous avons, nous, ciblé dans les budgets ce qu'on appelle les fonds spéciaux d'intervention, les frais secrets de recherche, etc., qui sont souvent des rubriques sombres, fourre-tout, qui servent à servir les personnels politiques. Nous avons dit...
Là, donc les fonds spéciaux et les frais de recherche.
Des recherches et... Tout simplement aussi une réduction tout simplement du budget de la présidence, de la primature, du Sénat, des assemblées, etc., etc. Et donc nous avons fait une simulation et qu'on peut arriver à 1 milliard, 700 millions de par rapport aux coupes. On peut y arriver. On peut y arriver, mais il faut qu'il y ait une...
Donnez-nous juste un exemple au niveau de la présidence. Vous estimez qu'on peut réduire ça à combien?
Bon,
la part.
Pour la présidence. Nous avons parlé de 171 milliards de francs congolais.
175 milliards.
À peu près de francs congolais. Et nous avons, pour toutes les provinces, un peu plus, 1435 milliards, ainsi de suite. Donc, vous avez, donc, il faut, le principe est de réduire les trains de vie de l'État. Les trains de vie de l'État, il faut les réduire au bénéfice de la population, c'est-à-dire au bénéfice de moyens qu'il faut mettre à disposition pour pouvoir combattre le coronavirus. Donc, il faut faire les coupes budgétaires. Et il faut aussi que... J'ai appris, il y a un député à l'Assemblée nationale
comme le dit un auditeur, et surtout qu'en ce moment, les ministres, les députés ne vont plus en mission.
Voilà.
Tout cet argent, on peut mettre ça dans un panier et puis, orienter ça vers la riposte.
Il y a même un député qui a renoncé à ses émoluments jusqu'à fin décembre.
Oui, je crois qu'on aura d'ailleurs en ligne Delice Sanga.
Exactement.
Qui a souhaité d'ailleurs être avec nous.
Oui, il a donné l'exemple et que les autres suivent son exemple. Alors, pour les cadres légaux, moi je souhaite que les cadres légaux pour changer les budgets, modifier, c'est la loi rectificative. C'est, il faut qu'on puisse... L'Assemblée nationale doit se dépasser.
Mais comment l'Assemblée va se réunir dans un état d'urgence?
Mais oui, mais ils peuvent se dépasser, c'est-à-dire que, allez, on prend tout, on examine chacun. Avant d'entrer dans l'hémicycle, pour voir ceux qui ont des problèmes, bon, ils n'entrent pas. Mais ceux qui n'ont pas de problème doivent pouvoir se réunir. Lumumba est bien mort, non, pour tout le monde. Alors, il ne faut pas que les gens aient peur de la mort.
Parce que dans un état d'urgence, les pouvoirs sont consacrés qu'au niveau du chef de la présidence de la République, au niveau du chef de l'État. C'est le chef de l'État qui décide même des grandes actions à prendre, des orientations.
Et là, il faut trouver une exception. Une exception pour que le Parlement se réunisse. Il faut trouver des exceptions. Que les parlements se réunissent pour pouvoir faire les coupes budgétaires et voter une loi rectificative qui tiendra aussi même compte de ce que sera la réalité du budget, donc cette année, en revoyant les indicateurs macroéconomiques qui seront revus et tout, et tout, et tout, qu'on fasse une bonne fois pour toutes une loi rectificative, mais qui va intégrer justement les budgets de la riposte contre le coronavirus, vu dans le sens de ce PMUR, les programmes multisectoriels d'urgence.
À ne pas confondre avec les programmes multisectoriels de la réforme.
Non. Voilà. Alors qu'on le fasse, que les députés se dépassent, qu'ils n'aient pas peur de la maladie. Ils doivent avoir peur, c'est vrai. Mais on peut prendre les dispositions pour que ceux qui entrent là-dedans, qu'il n'y ait pas des gens qui vont contaminer les autres. Et qu'on ait un cadre légal. Parce qu'imaginez-vous, si nous allons encore retomber dans les programmes extra-budgétaires, comme ça a été pour le programme de 100 jours, et avec je ne sais pas quel type de gestion, on ne peut plus recommencer ça. C'est-à-dire ces erreurs-là ont été commises, ces fautes-là ont été commises, on ne peut plus. Pour les peu mûrs, il faut le programme d'urgence, programme multisectoriel d'urgence riposter contre le coronavirus. Ce programme doit être légal. Il faut qu'il soit... Donc adopté par le Parlement et le budget voté, c'est-à-dire
doté d'une personnalité juridique.
Bon, ça, ils verront, eux-mêmes les parlementaires verront tout ça. Mais ce programme doit être absolument légale. Mm-hmm. Il ne faut plus ces histoires de oui, le président va on va retourner de nouveau dans le programme de 100 jours. Et là, ça suffit comme ça.
Voilà, si vous le permettez, ouais. Parce que vous avez cité l'honorable Deli Sessanga, qui nous a d'ailleurs rejoint dans ces débats. Honorable, vous êtes avec nous en ligne. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes parmi les premiers et aussi à vouloir renoncer de ces emoluments pour les renforts de la riposte. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire exactement qu'est-ce qui vous a motivé?
Ben, d'abord, vous savez que depuis 2 ans bientôt, je mène une lutte acharnée contre le profil et la structure de nos finances publiques. Je pense que le Congo est un pays qui marche sur la tête et cette crise nous permet de mettre le doigt dans l'engrenage. J'ai toujours dit, on ne peut pas avoir un pays qui dépense 70% de ses ressources pour le fonctionnement de l'État. Et 30% qui restent, on ne sait pas dans quoi les investir. Et quand nous nous retrouvons devant une crise comme celle du coronavirus aujourd'hui, on découvre que nous sommes nus, que nous n'avons rien, il n'y a aucun hôpital qui peut fonctionner, on n'a aucune structure, on n'a même pas un fonds qui permet de répondre à une situation catastrophique. On a déclaré l'état d'urgence que j'avais clamé, mais on n'a aucune ressource pour y répondre. Et donc j'ai déjà dit qu'il fallait réduire les trains de fonctionnement de l'État. On ne peut pas continuer. Avoir un gouvernement de 65 membres, avoir un cabinet du président avec 800 personnes ou je ne sais pas combien, 500 députés, 100 sénateurs, 800 députés provinciaux, et chacun avec des salaires ou des coûts de fonctionnement qui sont exorbitants par rapport à l'efficacité que l'on attend de l'action publique. Je suis persuadé, donc c'est une question de conviction. Ce n'est pas une question liée à un aspect conjoncturel. Je pense que structurellement, tel que nous fonctionnons dans notre pays, c'est une forme d'inconscience à laquelle il faut mettre fin. Absolument. Alors, je dis aujourd'hui, face à l'urgence qu'il y a, les moyens dont a besoin l'équipe du docteur Mouyembe pour faire la riposte, nous sommes dans un cas inédit. Voilà que depuis l'indépendance, quand nous nous retrouvons face à ce type de situation, quel est le premier réflexe? La communauté internationale va pouvoir nous aider. Sauf qu'aujourd'hui, la communauté internationale, les pays donateurs, sont eux-mêmes épuisés en interne par cette crise. Qui pouvait imaginer il y a encore quelques temps qu'un pays comme la France, un pays comme l'Espagne, un pays comme l'Italie, tous ces pays qui figurent parmi nos donateurs, pouvaient arriver à manquer des masques pour donner à leurs médecins pour aller faire la riposte? Qui pouvait l'imaginer? Alors quand ils sont épuisés, ça veut dire que la solidarité internationale ne sera ni spontanée, ni suffisante pour pouvoir endiguer le mal que nous avons. Pour une fois, nous sommes confrontés à un défi face auquel nous devons nous lever. Les gens doivent se surpasser et il faut des gestes forts. Et je posais cet acte en accord avec mes convictions. Je posais cet acte conscient aussi du fait que si chacun de nous peut se mobiliser, je crois que nous pouvons trouver suffisamment de ressorts pour aider nos techniciens qui travaillent et qui sont confrontés à ces difficultés.
Alors, honorable Deli.
Attendez, parce que vous m'avez posé une question de fond. Je vais terminer là. Voyez-vous, je considère moi, par exemple, qu'étant député, dans la situation de guerre que nous avons contre le coronavirus, je ne peux pas demander à l'État d'aller prélever les impôts pour pouvoir me payer moi alors que je suis confiné et qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont confinés et qui pensent même pas tenir 2 jours. Donc j'ai dit, par rapport à ça, il faut un élan de solidarité et j'ai renoncé au bénéfice de mes émoluments en disant je veux le reverser à l'équipe de la riposte pour des besoins spécifiques avec lesquels pour lesquels nous avons discuté ou dont je pense qu'effectivement on peut intervenir et aider à notre échelle. Et je suis humble là-dessus en disant je suis conscient que ma seule intervention ne va pas résoudre les problèmes, mais vous savez, ce sont des petits ruisseaux qui font des grandes rivières.
Absolument. Voilà. Alors, juste une question de curiosité. L'Observatoire de la dépense publique vient de publier une feuille de route, disons, proposant, par exemple, le budget, la révision à la hausse du budget proposé, le coût proposé par le docteur Mouyembe, 135 millions pour l'Observatoire. C'est simplement insignifiant. Ça ne peut pas résoudre tous ces problèmes parce que ça nécessite quand même une réflexion multisectorielle. Parce qu'il faut non seulement penser à court terme, mais il faut aller au-delà, c'est-à-dire moyen terme et à long terme.
Ok, j'ai vu le papier de l'Observatoire. Je pense que d'abord je vais le remercier parce qu'ils font un effort constant de pouvoir alimenter l'opinion publique sur les questions des finances publiques que beaucoup de gens n'aiment pas évoquer dans les débats publics. Donc de ce point de vue, je suis en accord avec eux. Sans doute qu'il faut beaucoup plus de moyens. Il en faudra davantage. Vous avez vu l'effort que les États européens ont accompli à cet égard. Mais il nous faut démarrer quelque part. Il y a eu un chiffrage qui a été fait par l'équipe de Mouyembe. Il y a sans doute des aspects multisectoriels qu'il faut prendre en considération. Et de ce point de vue, je crois que l'observatoire a raison. Mais il faut commencer quelque part. Parce que ici, nous avons affaire à une situation d'urgence qui veut que, d'ores et déjà, aujourd'hui, on commence à agir. Et les informations que j'ai sur les ressources qui ont été débloquées à cette étape ne me rassure pas par rapport à l'efficacité que la riposte va avoir. Nous avons besoin de beaucoup de moyens et ici j'en profite pour lancer l'appel à la société civile, à nos opérateurs économiques. Le Congo n'est pas seulement qu'une terre où on vient exploiter, c'est aussi une terre qu'il faut pouvoir soutenir pour avoir une main-d'œuvre de qualité, une main-d'œuvre en bonne santé pour que la productivité demain soit au rendez-vous. Donc je demande à ce que tout le monde puisse se donner et comprenne que le défi que nous avons aujourd'hui affecte non seulement la santé au sens primaire du terme, mais affecte la productivité, affecte notre système économique. Et à mon avis, les hommes politiques, nous devons prendre conscience qu'après le coronavirus, ne devra pas être comme avant le coronavirus.
Merci beaucoup, honorable Délice Sanga, d'avoir accepté de nous accorder de votre temps pour, en fait, nous expliquer un peu les motivations de votre renoncement des émoluments pendant une certaine période pour lutter contre le coronavirus. Merci beaucoup, à très bientôt. Alors, on va prendre le professeur Théophile Mwamba qui est à Kananga. Et lui également, il est en province. Comment aujourd'hui les provinces peuvent se tirer de l'affaire? Parce qu'on a l'impression que les 135 millions ne prend en compte que finalement l'action amenée dans la ville, la province de Kinshasa. Professeur Théophile Mwamba, vous êtes à Kananga. Bonjour, professeur.
Bonjour, monsieur journaliste. C'est Théodore Mwamba. Je voudrais, avant de commencer, vous remercier pour m'associer à cet échange, mais en même temps inviter l'honorable Sesanga, qui est fils du Kasaï central, qui a des moyens pour qu'il comprenne que le Kasaï occidental central, maintenant, n'a pas encore de
cas.
Il y a un hôpital par excellence, où il peut aussi, tout en renonçant à ce qu'il a comme moyen, mais qu'il puisse aussi mettre la main à la poche pour venir en aide à cette province. Je voudrais en même temps demander au professeur Mouteba, que je connais bien, que j'ai saisi une contradiction entre que les services générateurs de recettes pendant ce temps devraient se mobiliser pour avoir suffisamment de moyens, pendant que l'État congolais voudrait aller dans l'État providence pour alléger les services sociaux à la population, tout en demandant à la population de bénéficier de certains services. Mmh. Alors, mon intervention, c'est par rapport à la réalité du Kasaï central. Moi, je voudrais, jusqu'à présent, j'ai fait le tour de notre ville, là où on pensait installer les hôpitaux, à plus ou moins 15 kilomètres de la ville, et une partie de l'hôpital général. C'est quelque chose qui n'est pas encore bien planifié, parce que vous n'avez pas des lits, à Katouambi, vous n'avez pas de lits, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'énergie, c'est vraiment un coin reculé et il faut nécessairement des moyens pour réhabiliter. Parce qu'on semble dire qu'il faut, on n'a pas encore déclaré le cas dans la ville de Kananga et on semble marcher à pas pesant. Alors qu'il faut anticiper, il faut prévoir. Mmh. Et donc je propose que l'on puisse réhabiliter la route Kananga-Luiza pour que cette route puisse renforcer l'économie de la province. Est-ce que l'on puisse, comme nous l'avons toujours
fait... Est-ce qu'il y a déjà un plan chiffré de la riposte au niveau de la province du Kasaï?
Ben là, il faut demander au président du comité, qui est le gouverneur, qui connaît déjà moi personnellement, en tant que chercheur, je n'ai pas encore accédé à cela.
Ces informations-là.
Mais lorsque je constate et j'observe sur terrain ce qui se passe...
Mais les besoins sont énormes.
Les besoins sont énormes. Les besoins sont énormes. et je ne sens pas la mobilisation pour même demander, parce que les écoles sont fermées, les universités sont fermées, les cours sont fermés. Mais lorsque vous allez au centre, vous avez affaire aux multitudes, à une multitude de personnes qui passent et qui ne font rien. Le Parlement debout, les gens en dessous des arbres, partout dans la ville, vous sentez que ce n'est pas une préoccupation et tout le monde semble dire,
voilà.
Jusque-là, il n'y a aucun cas au Kassai. Et donc,
et nous pouvons nous dormir sous nos deux lauriers. Merci beaucoup, et professeur enfin, Théodore. Allez-y, enfin.
Peut-être quelque chose, enfin. Allô?
Oui, allez-y. Alors, enfin?
Enfin, je voudrais demander au professeur Mouteba, maintenant que nous avons un service ici de la SONAS qui a érigé les barrières pour mobiliser les fonds au niveau des motards, au niveau des véhicules, est-ce que ça fait partie de la mobilisation des fonds pour soutenir
voilà, une question directe d'ailleurs au professeur Florimond Mouteba. Voilà, professeur, là, le professeur Théodore évoque les services générateurs qui doivent être mobilisés. Ouais. Et puis, bon, l'État-providence, ça devient vraiment un paradoxe par rapport à ce que... Ce sont des petites erreurs qu'il a pu déceler.
Non. C'est-à-dire que l'État-providence, pour l'instant, l'État a besoin de...
A besoin des moyens, mais il aura
des
où
moyens, mais
les budgets
pour les utiliser pour la population. Maintenant, au départ, je parlais de tous ces coulages des recettes. Tous ces coulages des recettes. Parce que si vraiment il y a en amont une discipline pour que et des sanctions pour lutter contre le coulage des recettes, on peut encore là où on peut encore mobiliser, on peut encore avoir des moyens. Donc c'est vrai que si il y a laxisme, qu'on continue le coulage, la corruption, etc., oui, ça va poser un problème. Donc la condition, c'est qu'il y ait vraiment pendant cette période et même après. Et c'est là où je suis un peu, allez, je regrette la manière dont on a mis en place, on veut mettre en place les instruments de lutte contre la corruption avec des instruments qui seront dépendants de l'État, enfin plutôt du président, et qui n'auront aucune efficacité. Or, on avait besoin en ce moment d'avoir des instruments indépendants. Il fallait pas vouloir contourner le Parlement. Avoir des autres, avec ce genre d'instruments, on pouvait arriver à aller trouver l'équilibre entre les deux. Mm-hmm. C'est-à-dire mobiliser davantage et puis donner aussi à la population. Mais c'est le moment aussi, après avoir élaboré un véritable budget pour la riposte, qui c'est un budget comme il se doit. Comme à Kananga, on n'a pas encore le coût de la riposte à Kananga. À Mujimaï non plus, à Tshikapa non plus, etc. Et à Kisangani non plus, à Ishiro. Donc il faut qu'on ait le coût de la riposte en province et pour avoir un coût global de la riposte sur l'ensemble du pays qui sera bien loin, bien plus loin que 135 millions.
Mais donc, vous venez d'entendre le professeur, il n'y a aucun plan, par exemple, pour les Kassai centrales.
Mais justement.
Les là-bas, avec Mouyège, qui a annoncé juste les 4 millions de dollars.
Qui sont vraiment une goutte d'eau, mais c'est déjà ça. Parce que vous savez, au niveau de Kinshasa, comme disait l'honorable Sesanga, que j'ai salué en passant, et qui est l'un de ces députés qui
s'intéresse aux finances publiques.
Exactement. Mmh. Et correctement. La lutte contre la corruption, vraiment, on les lit. Mmh. Alors, comme il disait tout à l'heure, combien le docteur Muyembe a reçu jusqu'à aujourd'hui?
1 million.
Voilà.
C'est ce qu'a dit d'ailleurs.
On était prêt au mois de janvier à sortir 6 millions pour fêter, entre guillemets, l'alternance. C'était vite fait, hein. Mais bon, Dieu merci.
Pour
fêter l'alternance. Et maintenant, pour combattre le coronavirus, on sort à peine un petit million. Vous voyez, alors que nous avons besoin de peut-être 500 millions pour l'année ici. Vous voyez qu'il y a un problème là. Est-ce qu'on prend conscience vraiment de la gravité?
Oui, si on a sorti 1 million, les 134 millions,
ça sera quand?
Ça sera quand?
Et ça sera quand? Vous voyez, donc vraiment il y a un problème, il faut vraiment que les autorités prennent conscience que la crise elle est grave, elle a une ampleur vraiment multidimensionnelle, elle concerne tous les territoires nationaux et qu'on ne peut pas faire ça. On est prêt à sortir 6 millions pour fêter, mais on ne peut pas sortir 10 millions, par exemple, pour donner une avance au docteur Muyembe pour qu'il puisse faire correctement. Excusez-moi,
est-ce que votre feuille de route, ouais, avec toutes les données, vous avez déjà eu l'occasion de la présenter au Premier ministre?
Bon, pour l'instant, nous l'avons fait d'une manière,
informelle,
mais aujourd'hui même, nous allons déposer un courrier officiel au cabinet du Premier ministre tout à l'heure après l'émission, pour que nous puissions. Nous sommes déjà en contact informel un peu par rapport à ça.
Donc nous rappelons à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre et que vous plaidez pour la mise en œuvre d'un programme multisectoriel de la riposte.
Exactement.
Qui prendra en compte tous les besoins qui sont énormes d'ailleurs à travers le pays, province par province
et secteur par secteur.
Exactement. Pour faire un truc global. De riposte.
Exact.
Voilà, on va écouter cette deuxième série, dernière série des auditeurs qui nous ont rejoints, mais tout en rappelant également à ceux qui viennent de peine de nous rejoindre, qui peuvent aussi participer à ces débats en composant les 081-890-6330.
Parole aux auditeurs.
Chadrak Kapso, vous êtes en Boujimaï. Bonjour, Kapso.
Oui, bonjour, monsieur Juir. Bonjour au prof. Bonjour à tous les auteurs de la radio Kapi.
Est-ce que vous partagez l'avis de l'ODEP qui voudrait que les budgets présentés, les coûts de la riposte soient revus à la hausse?
Je suis totalement d'avis. Voilà le pourquoi je voulais aussi proposer quelques mécanismes. Monsieur Juir, avant peut-être de répondre à cette question, il s'avère d'éclairer que l'état d'urgence, l'Assemblée, le Parlement peut se réunir parce que nous avons besoin avec cette loi rectificative, bien entendu. Alors, parce que les travaux dans des commissions, on peut adopter peut-être une autre manière, parce que il s'avère juste de respecter la distance d'un mètre, porter un peu le masque, ainsi de suite, enfin de nous doter un cadre légal. En dehors de la solidarité nationale qu'internationale, comme l'a souligné le professeur, moi je voulais aussi insister, si ils peuvent quand même proposer un numéro, soit parce que tout le monde n'a pas de compte bancaire, on peut proposer un peu de numéro Orange Money, M-Pesa, Airtel Money, enfin que tout Congolais peut contribuer, parce que attendre l'extérieur aujourd'hui est aussi frappé par la même pandémie. Mmh. Et surtout que nous, ici sur la ville de Mbujimayi, nous faisons face jusque-là à l'unique épidémie qui est de choléra, mais quand bien même il n'y a pas encore le corona, il se pose des problèmes d'hôpitaux parce que opter seulement pour les 135 millions que pour la ville de Kinshasa, nous autres c'est compliqué, bien que nous ne souhaitons pas que cette pandémie-là puisse nous venir, mais néanmoins on prend des dispositions. Voilà le pourquoi je suis d'avis avec l'observance à ce que ces budgets-là soient revus à la hausse, et surtout que en dehors si peut-être la solidarité comme eux propose à 25%, pourquoi ne pas le faire comme l'honorable Denis Essanga l'a fait? Pourquoi peut-être les autres élus ne peuvent pas peut-être s'en servir de cette urgence?
Les membres du gouvernement.
Ce sera une bonne chose. Mmh. Au lieu peut-être que d'attendre l'extérieur, on ne sait pas, parce que la santé, c'est la priorité de priorité. Nous devons peut-être nous approprier de cette question-là afin de sauver notre pays. Comme il a proposé ça à la présidence doit prouver non seulement en quoi peut-être il compatit avec nous, ils doivent le faire, toutes les autorités doivent le faire, ainsi que tous les Congolais en particulier. Donc peut-être par le voie que je proposais, soit prendre nous donner le numéro, parce que nous pouvons commencer à contribuer avec le peu qu'on a en fait quand même de pallier cette situation. Voilà un peu ma manière de voir les choses, M. J.R. Zedi, et je
remercie. Merci beaucoup, Chadrak. Alors, Nathan Tcheke, vous êtes à Bukavu, au sud Kivu. Vous avez la parole, Nathan. Nathan, vous êtes avec nous? Guillaume, vous êtes à Mahagi. Bonjour, Guillaume.
Bonjour, mon cher ami.
Vous avez la parole.
Ah, merci beaucoup. Oh, je voudrais trop parler. Je voudrais très peu parler. J'ai bien suivi le docteur avec tout intérêt. La crise, elle est grave, mon frère, journaliste. Jusqu'à arriver à embraler presque tous les continents. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes dans une inquiétude de poser la question. Parce que la santé, c'est une priorité et un attribut du gouvernement, monsieur le journaliste. Mais je voudrais peut-être demander, si nous allons toujours compter de l'extérieur, faut d'abord poser la première question. Quelle est notre politique sanitaire? Parce qu'on ne peut pas comprendre que non, même si pour creuser notre petit WC, on doit toujours recourir aux étrangers de venir travailler, mon cher journaliste.
Voilà, merci beaucoup Guillaume. Alors on va poursuivre avec vous, professeur Florimond Moutéba. Oui. On a écouté les uns et les autres, mais la grande question qui me revient, qui m'étarode un peu l'esprit, les coûts et les financements du PMU. Donc n'est-ce pas là que tout cet argent qui sera mobilisé n'est-ce pas, et qui sera versé pour le fonctionnement encore de ce programme.
Oui, c'est-à-dire que, comme disent les auditeurs, comme moi aussi j'ai dit...
374 millions, comme vous l'avez dit, quand je vois encore la feuille des routes, il y a beaucoup, beaucoup, en tout cas des montants, hein, on risque même de se perdre déjà là. Au cours de la même... opérations financières.
Ça, c'est les analyses pour arriver à dire que il faut, à court terme, au moins 500 millions, mm-hmm. à court terme, l'année ici, il faudra élaborer.
À court terme, 500 millions.
Voilà. Mais à moyen terme, il faut arriver jusqu'à 1,7 milliard. D'ailleurs, quand vous voyez ce que les États-Unis, eux, mobilisent, et ils mobilisent 2 000 milliards de sorte. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a, aussi toutes ces entreprises qu'il faudra soutenir après, parce qu'il faut que l'activité économique reprenne.
Parce qu'il faut récapitaliser.
Exactement. Donc il faut prévoir tout ça. Il faut dans une planification d'ensemble dans laquelle on va impliquer le ministère du Plan. Je reviens là-dessus. Il faut impliquer le ministère du Plan, puisque là, il y a des experts qui vont permettre de faire une bonne évaluation du coût global du PMUR. Et donc, voilà. Mais alors, pour la question de... les fonds de solidarité. Moi, je reviens encore sur ce que je disais tout à l'heure. Je voudrais que le président de la République donne l'exemple. S'il pouvait faire, franchement, ce qu'a fait l'honorable Denis Essanga, il a renoncé à tous ses emoluments. Si le président de la République pouvait faire cet exemple...
Le premier ministre, le membre du gouvernement.
Oui, qu'il renonce à...
Même vous-même aussi, professeur.
Mais bien sûr. Mais c'est qu'il faut ce qu'il renonce à, au moins pour le président de la République. Qu'il prenne l'exemple de Uhuru Kenyatta. On va l'applaudir. Hein? Qu'il réduise, par exemple, le nombre du personnel de son cabinet. 700 personnes au cabinet du chef de l'État pour faire quel travail? Qu'il réduise, par exemple, cela. Et ainsi de suite. Donc, il faut faire des coupes dans le budget. Et il faut, comme disait...
Il faut les faire vite. Il faut pas attendre.
Et réunir rapidement l'Assemblée. Nous avons vu qu'il y a moyen de prendre des mesures de sécurité, distance d'un mètre.
Dans votre feuille de route, vous avez évoqué la balance commerciale.
Oui, elle aura un problème. Mm-hmm. Parce que nous allons très peu exporter, comme la production nationale ne va pas suivre avec toutes ces... 2 mois, peut-être sans travail, les gens sont confinés chez eux. Toute notre production actuelle à l'exportation va connaître des problèmes. Et nous-mêmes, on importera peu.
Déjà, à l'intérieur, on a des problèmes, mais vous avez évoqué au point 12 et que les secteurs agricoles et rural vont s'effondrer, les villes vont marquer des produits.
Exactement. Donc, avec les confinements, avec toutes les prudences qu'on doit prendre, le secteur agricole va s'effondrer. Les secteurs agricoles et ruraux vont s'effondrer et il y aura des difficultés pour pouvoir approvisionner les villes en produits vivriers. Il peut y avoir demain des émeutes de la faim et voire même des pillages, n'est-ce pas? Donc il faut prendre la mesure de la crise. Il faut prendre la mesure de la crise. Vous savez, par exemple...
Donc, il y a urgence à accorder, en tout cas, le bénéfice de l'urgence à accorder dans la rencontre des multisecteurs pour revoir les budgets alloués à cette riposte.
Mais, n'ai pas oublié quand même que nous sommes en partenariat et avec le FMI, avec
la partenaires mondiale, traditionnels.
Des partenaires traditionnels. Mm-hmm. Peut-être pas les bilatéraux, mais les multilatéraux. Donc, on peut aussi aller vers eux pour les convaincre de contribuer à ces fonds multisectoriels pour pouvoir faire la guerre au coronavirus.
Merci beaucoup, professeur. Nous rappelons que votre feuille de route a été publiée lundi dernier pour permettre à ce qu'on puisse faire un bon financement de la route, la riposte contre les Covid-19 et ses impacts sur toute la collectivité nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation et venir échanger avec les compatriotes à travers le pays.
Merci
à Tatiba Poko et à Paul Badianyama qui ont assuré la réalisation de cette émission. On prend rendez-vous avec vous demain. En tout cas, lundi prochain, parce que demain on va rediffuser vendredi. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre échange.